Quelle semaine incroyable! On a vécu une vague d'euphorie incroyable au Maroc, hein, avec cette victoire historique des Lions de l'Atlas.
Ah oui, le mondial U20 au Chili, champion du monde.
C'est ça, une consécration sur le toit du monde. Et c'est par là qu'on va commencer notre exploration aujourd'hui.
Un bon point de départ, fédérateur.
Exactement. Alors, on s'appuie comme d'habitude sur la dernière édition de LOJ High Week, le brief hebdo du journal L'Observateur du Maroc et d'Afrique, et on va aller au-delà du sport, hein. On va plonger dans un panorama assez riche, assez varié, on va regarder le portrait qui change de la femme marocaine, les équilibres géopolitiques aussi du côté du Sahara.
Oui, il y a eu du mouvement.
L'actu internationale marquante, bien sûr, et puis les tendances tech, un peu de culture, de bien-être, bref, une immersion pour saisir l'essentiel.
C'est ça l'idée, ne pas juste survoler les gros titres, mais creuser un peu, décortiquer tout ça, voir les enjeux derrière.
Comprendre le pourquoi, pas juste le quoi.
Exactement.
Alors revenons à ce moment de joie collective, les U20, finale gagnée 2-0 contre l'Argentine, excusez du peu.
Oui, quand même.
Ce n'était pas juste un coup de chance, hein. C'était vraiment l'aboutissement d'un parcours maîtrisé, beaucoup de maturité pour une équipe si jeune.
Tout à fait. Et les sources le disent bien, ce n'est pas un hasard. On se rappelle le huitième contre le Mexique, c'était intense.
Ah oui.
Et puis la demi contre la France, un vrai bras de fer mental, comme ils disent, très tactique.
Mais alors, au-delà des scores, qu'est-ce qui explique cette cohésion, cette force collective?
Les retours parlent beaucoup de l'état d'esprit, gagner ensemble, ça revient souvent. Pas de stars qui tirent la couverture à elles. Des cadres qui jouent simple, juste, les remplaçants aussi, décisifs quand ils rentrent.
C'est important ça, le banc.
Fondamental. Et puis, des leaders pour gérer la pression. Tactiquement, les analyses décrivent une équipe très solide. Une défense très dense, bien en place.
Capable de se projeter vite vers l'avant.
Voilà, des transitions ultra rapides. Et devant, un jeu offensif pragmatique. On cherche l'efficacité d'abord.
Et comment cette tactique, elle s'inscrit dans l'évolution de la formation au Maroc? C'est ça qui est intéressant, non?
Oui, c'est là que ça devient passionnant. Ce succès, il est vraiment présenté comme la consécration d'un projet de long terme.
Avec l'Académie Mohamed VI au centre?
Exactement, le pilier central. Décrite comme une fabrique d'élite. Les méthodes sont modernes, le recrutement est structuré au niveau national.
Et il y a un suivi scolaire aussi, je crois?
Oui, suivi scolaire rigoureux, des staffs complets, pluridisciplinaires.
On voit donc concrètement les fruits de cet investissement.
Précisément. L'académie, elle alimente les sélections. On voit que le pipeline U17, U20, équipe A, ça fonctionne bien. Ça fait écho à la finale U17 de 2023.
Ah oui, juste.
Mais elle irrigue aussi les clubs marocains. Et ce n'est pas que l'académie, hein. C'est tout l'écosystème des jeunes qui semble le plus fort.
C'est-à-dire?
On parle de calendrier mieux fait, plus de matchs internationaux pour les jeunes, pour les aguerrir.
D'accord.
Une continuité dans les staffs techniques, des U15 aux U23. Et même l'intégration de la data pour optimiser les perfs.
C'est fascinant de voir comment une victoire sportive peut être le signe d'une transformation plus profonde. Quelles sont les implications de ce titre mondial alors, au-delà de la fierté, bien sûr?
Elles sont multiples. Sur le plan sportif, le défi, c'est d'accompagner cette génération vers le monde pro sans les brûler, gérer les attentes.
Oui, ça doit pas être simple.
Économiquement, ça donne une crédibilité énorme à la formation marocaine. Ça peut attirer des partenaires, des tournois. Ça valorise les joueurs aussi.
Et symboliquement?
Ah mais c'est énorme. Une inspiration pour les jeunes, une validation pour les formateurs. Et puis, c'est l'affirmation d'une identité de jeu marocaine qui gagne. C'est un aboutissement, oui, mais c'est aussi un commencement. Une promesse.
Ne s'est pas arrêté au foot U20 cette semaine. On a noté aussi les succès en surf et bodyboard au Cap-Vert.
Oui, des finales 100% marocaines, c'est ça?
Exactement. Et en kickboxing, Tariq Abez qui récupère sa ceinture mondiale au Glory.
Une grosse organisation au Glory. Ça montre une belle vitalité dans plusieurs disciplines.
On dirait oui.
Ça suggère peut-être une tendance de fond, une meilleure structure, des investissements qui paient dans différents sports internationaux.
D'ailleurs, même si la victoire est française en kitesurf à Dakhla, ça confirme la place de Dakhla sur le circuit mondial.
Tout à fait. Ça participe à ce positionnement du Maroc sur la carte sportive mondiale.
Bien. Alors, changeons de sujet. Prenons le pouls social et économique du pays. Les sources nous donnent un portrait statistique de la femme marocaine en 2025 basé sur les chiffres du HCP. Qu'est-ce qu'il faut en retenir, Sam?
Alors, les chiffres bruts, une population féminine un peu majoritaire, 18,3 millions contre 18,1 pour les hommes. Et une forte urbanisation, presque une femme sur deux en ville.
Oui.
Mais au-delà de ça, ce sont les tendances qui sont intéressantes, qui éclairent.
Justement, quelles sont ces tendances?
Plutôt que de lister tous les pourcentages, regardons les dynamiques. On voit que l'âge moyen au premier mariage continue d'augmenter pour les femmes, autour de 25 ans.
Et pour les hommes?
Ça dépasse 32 ans. Et un fait très encourageant souligné dans les données, la baisse notable des mariages de mineurs. On passe sous les 9000 cas par an.
Ah oui, c'est une bonne nouvelle.
Oui, et aussi une diminution des unions polygames. La fécondité, elle, continue de baisser, juste sous le seuil de renouvellement, avec toujours l'écart ville-campagne.
D'accord. Et côté éducation et emploi, quel est le tableau?
Alors là, c'est là qu'on a un contraste assez saisissant. Le fameux paradoxe marocain, comme on l'appelle souvent.
C'est-à-dire?
D'un côté, des progrès nets en éducation. L'alphabétisation des femmes progresse, même s'il y a encore un écart avec les hommes, et surtout, la parité à l'université est atteinte. Même une légère majorité d'étudiantes, 52%. C'est un acquis majeur.
Oui, c'est énorme. Mais ça ne se traduit pas sur le marché du travail, c'est ça?
Exactement. C'est là le nœud du problème que les chiffres montrent bien. Le taux d'activité des femmes diplômées, entre 25 et 59 ans, reste bas, autour de 34%.
Seulement 34%. Et pour les hommes diplômés?
Plus de 92%. L'écart est abyssal.
Ah oui, effectivement.
Et pour les femmes sans diplôme, c'est encore plus bas. Moins de 15% d'activité contre près de 75% pour les hommes non diplômés.
Mais pourquoi ce paradoxe persiste? Est-ce que les sources donnent des pistes d'explication?
L'article ne détaille pas toutes les causes, mais ça pointe implicitement vers des facteurs structurels, peut-être culturels aussi.
Mmh.
Malgré l'accès à l'éducation, il semble y avoir des freins à l'entrée et au maintien des femmes sur le marché du travail, surtout les plus qualifiées.
Donc des questions sur l'adéquation formation-emploi, peut-être le manque de crèches.
Voilà ce genre de choses. Les infrastructures de soutien et potentiellement les normes sociales sur le rôle des femmes. C'est un vrai enjeu économique et social pour le pays.
Sur le plan économique plus large, par contre, les indicateurs semblent plutôt au vert, non? Surtout le tourisme.
Ah oui, le tourisme, il affiche une santé éclatante. Les chiffres à fin août 2025, plus 10% de nuitées par rapport à l'an dernier, on dépasse les 20 millions.
Tiré par l'international et le national.
Les deux. L'international plus 13%, le national plus 5%. Et certaines villes comme Tanger, Casam, Fès progressent encore plus fort.
Et les recettes suivent?
Et comment? Plus 14% de recettes en devises, on frôle les 88 milliards de dirhams. C'est clairement un moteur économique essentiel.
Un petit mot aussi sur la perception de la pauvreté via Afrobaromètre.
Oui, le chiffre de 47% de Marocains qui disent ne pas avoir été privés des besoins essentiels s'est présenté comme une amélioration. Mais bon, faut rester prudent avec ce type d'indicateur basé sur le ressenti.
Ça peut masquer des disparités.
Exactement. Ça ne reflète pas toute la complexité de la précarité.
Bien. Passons à la scène internationale, avec une évolution potentiellement importante sur le dossier du Sahara saharien, la position russe.
En effet, la déclaration de Sergueï Lavrov, le ministre russe, a fait réagir. Il a qualifié le plan d'autonomie marocain de solution probable et respectueuse du principe d'autodétermination.
C'est nouveau comme formulation, non? Ça s'éloigne de leur position habituelle sur le référendum.
Oui, c'est ça. Ça semble s'en éloigner. Maintenant, il pose des conditions.
Lesquelles?
La nécessité d'un accord entre toutes les parties et une validation sous l'égide de l'ONU. La formulation est décrite comme soigneusement calibrée.
Et comment on interprète ça? Ce changement de ton, même prudent.
L'analyse suggère que la Russie, qui a toujours essayé de ménager Alger et Rabat...
Oui, pour des raisons différentes.
Voilà. Elle cherche peut-être à se positionner comme un acteur plus actif, plus constructif dans le processus onusien. Pas juste un observateur.
Quelles implications ça pourrait avoir, ce repositionnement russe?
Dans le contexte géopolitique actuel, très mouvant, la Russie veut peut-être montrer qu'elle peut jouer un rôle dans la résolution de conflits.
Mmh.
Et en adoptant cette position, elle s'aligne un peu plus, de fait, avec les États-Unis, la France, etc., qui voient le plan marocain comme une base sérieuse.
Ça pourrait isoler un peu plus les positions les plus dures?
Potentiellement, encourager une dynamique de compromis à l'ONU. C'est une évolution à suivre de très près, en tout cas.
Restons à l'international. Aux États-Unis, l'inculpation de John Bolton, l'ancien conseiller de Trump, très critique envers lui.
Pour rétention de documents classifiés, ça ajoute encore de la tension entre justice et politique en pleine période préélectorale là-bas.
C'est la troisième personnalité critique de Trump à être visée, c'est ça?
C'est ça. Du coup, ça alimente les accusations d'instrumentalisation de la justice, forcément.
En France, un événement totalement inédit. L'incarcération qui s'annonce pour Nicolas Sarkozy, l'ancien président.
Oui, à la prison de la santé, suite à sa condamnation définitive dans l'affaire du financement libyen.
Une première pour un ex-chef d'État dans un grand pays de l'UE.
Absolument. Même s'il y aura sûrement des recours, la peine de prison ferme est exécutoire. C'est un véritable séisme politique et judiciaire.
Un mot rapide sur Gaza, la situation humanitaire.
L'ONU lance un appel très pressant à Israël pour ouvrir immédiatement les accès humanitaires. La situation reste catastrophique. On parle de famine dans certaines zones, malgré le cessez-le-feu précaire.
L'aide est bloquée.
Oui, l'aide est bloquée aux frontières. L'urgence est absolue.
Et pour finir ce tour d'horizon international, un succès de coopération sécuritaire régionale.
Oui, le démantèlement d'un réseau de trafic de drogue, du haschich caché dans des chauffe-eau.
Ah oui?
Oui, entre le Maroc, le Sénégal et la Guinée-Bissau, ça montre l'efficacité de la collaboration entre les services marocains et sénégalais contre le crime organisé.
Très bien. Alors pour finir, explorons un peu la tech, la santé et le lifestyle. On commence par une tendance sympa, le patrimoine marocain qui devient interactif.
Ah oui, c'est fascinant ça. On voit des initiatives qui utilisent la technologie pour enrichir la visite culturelle.
Comme quoi, par exemple?
De la réalité virtuelle pour visiter des monuments à Marrakech, une chasse au trésor en réalité augmentée à Rabat ou la modélisation 3D de Ksour, les villages fortifiés du Sud.
L'idée, c'est de passer de visiteur passif à explorateur numérique, en quelque sorte.
C'est exactement ça. Une exploration immersive.
Et qui est derrière tout ça?
Souvent, ce sont de jeunes créateurs, des entrepreneurs marocains. Ils utilisent ces outils pour raconter l'histoire différemment, en mélangeant passé et futur.
Ça positionne le Maroc comme un pôle de culture immersive, alors...
Oui, un acteur innovant dans ce domaine. Ça peut attirer un nouveau type de tourisme aussi.
Passons à l'IA, l'intelligence artificielle. Les sources parlent d'un sentiment un peu ambivalent, non?
C'est très juste. Une étude montre que les chercheurs l'utilisent massivement. L'usage serait passé de 57% à 84% en un an. Ils reconnaissent son efficacité. Mais, en même temps, la méfiance augmente. Une majorité, 74%, craignent les hallucinations de l'IA.
C'est-à-dire quand elle invente des choses.
Voilà, quand elle génère des infos fausses ou absurdes. Et les inquiétudes sur l'éthique, la sécurité, la vie privée, elles augmentent aussi. On passe de l'enthousiasme à une utilisation plus critique, plus consciente des limites.
Et la cybersécurité, toujours un sujet chaud, avec de nouvelles alertes?
Oui, deux incidents importants. Une grosse fuite de données chez Qantas, la compagnie aérienne, 5,7 millions de passagers potentiellement touchés.
La cause?
Apparemment, une faille chez un prestataire, Salesforce. Et une autre fuite chez Discord, la plateforme de discussion, 70 000 utilisateurs touchés.
Quand même.
Ça montre bien la vulnérabilité de la chaîne de sous-traitance et les risques quand on collecte des données d'identité pour vérifier l'âge en ligne, par exemple.
Venons-en à la santé. Plusieurs alertes de l'OMS. La première sur la résistance aux antibiotiques en Afrique.
Oui, c'est un problème majeur. L'OMS estime qu'une infection sur 5 sur le continent résisterait aux antibiotiques courants.
La cause principale, c'est l'automédication?
C'est pointé du doigt, oui. Donc les conseils sont clairs, respecter les prescriptions, finir son traitement même si on va mieux, l'hygiène de base.
Et les remèdes naturels?
Seulement en complément, ou si c'est approprié. Surtout pas en remplacement d'un traitement nécessaire.
D'accord. Une autre alerte parle de crise neurologique mondiale. Ça fait peur, dit comme ça.
L'ampleur est impressionnante, oui. L'OMS estime que plus de 3 milliards de personnes dans le monde sont touchées par des troubles neurologiques. AVC, Alzheimer, migraine, épilepsie.
Et ça cause beaucoup de décès.
11 millions par an, selon l'OMS. Donc oui, face à ce fardeau sanitaire énorme, ils appellent à une action urgente pour améliorer la prévention, le diagnostic, la prise en charge.
Les sources font aussi un focus sur un virus très courant, mais dont on parle peu, Epstein-Barr, le BV.
Oui, c'est le virus de la mononucléose. Mais il est surtout connu pour être hyper répandu. Une étude à Fès est citée qui montre sa présence fréquente.
Et il est lié à certains cancers.
Oui, notamment celui du nasopharynx. La transmission se fait par la salive et l'article suggère que certaines habitudes conviviales, comme partager les verres, pourraient favoriser ça.
Faut-il s'en inquiéter particulièrement?
En général, non. Chez l'enfant, l'infection est souvent sans symptômes. Le virus reste dormant ensuite, comme l'herpès. Il peut se réactiver avec la fatigue, le stress.
Mais le système immunitaire le contrôle?
Chez une personne en bonne santé, oui, généralement. L'info est surtout utile pour comprendre son rôle potentiel dans certaines maladies chez des personnes fragiles.
Bon, terminons sur des notes plus légères. Les éco-lifestyle. Marrakech à l'honneur.
Eh oui, 15e ville la plus heureuse du monde, selon Time Out, l'article parle du sourire Marrakechi. Les couleurs, les odeurs, le rythme de vie.
Ça contribue au bien-être, apparemment. Une belle reconnaissance qui rejoint ce qu'on disait sur le tourisme.
Tout à fait.
Et pour les fans d'histoire et de mystère.
Une découverte à Milan 1, des croquis de Léonard de Vinci qui ont permis de trouver des tunnels secrets sous le château Sforza.
Incroyable. Et des petites astuces du quotidien.
Oui, deux assez marrantes. Utiliser une peau d'orange séchée pour parfumer les armoires.
Ah oui, l'astuce de grand-mère.
C'est ça. Et utiliser du fil dentaire, non mentholé intention, pour couper un gâteau moelleux bien nettement.
Ingénieux.
Il fallait y penser.
Bon, ben voilà un tour d'horizon vraiment très riche. De l'euphorie sportive aux réalités sociales, en passant par la diplomatie, la tech, la santé. Beaucoup de choses dans Elodie High Week cette semaine.
Il n'y a point soulevé dans les sources qui mérite qu'on s'y arrête une seconde.
Oui.
On a parlé de la technologie pour le tourisme, la recherche. Et justement, un article mentionne l'installation de 1300 caméras de surveillance à Casablanca.
Pour la propreté, c'est ça ?
Ouais.
Traquer les incivilités ?
C'est ça. L'objectif d'améliorer le cadre de vie, bon, c'est louable, mais ça ouvre une question plus large. Nos villes deviennent de plus en plus intelligentes. Elles utilisent la tech pour gérer des problèmes concrets.
Mm-hmm.
Mais où est l'équilibre ? Où se situe la frontière entre l'efficacité de cette surveillance technologique et le respect fondamental de la vie privée, des libertés individuelles, surtout que ces outils sont de plus en plus présents partout ?
C'est une question essentielle pour l'avenir de nos villes, effectivement.
Absolument. Comment on façonne nos espaces urbains partagés face à ça ? Une réflexion importante à avoir.